إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Nous sommes arrivés au chapitre 8, dans certaines versions chapitre 9, en ce qui concerne le fait de rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et autres. Ce chapitre, barakallahu fikum, il vient encore détailler les différents types de polythéisme. Donc il a dit ici, quel est le jugement quand il dit en ce qui concerne la recherche de bénédiction des arbres, des pierres et autres. C'est-à-dire, quel est le jugement de cela? Le cheikh dans le livre ne répond pas directement, mais la réponse est donnée dans les textes. Et les shurrah, ceux qui sont venus expliquer la parole du cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, ses petits-fils, sont venus et ont répondu clairement. Cet acte est du shirk, du polythéisme. C'est-à-dire que la personne s'en rendant coupable fait un acte de polythéisme et est un polythéiste. At-tabarruk, le fait de chercher de la bénédiction, c'est-à-dire rechercher le bien en quantité, rechercher sa constance et sa persistance. Les textes dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent clairement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui bénit et qu'aucune créature ne peut en bénir une autre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans Surat al-Furqan, le premier verset, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. C'est-à-dire que le bien de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur soit accru, augmenté, constant et persistant. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, et nous le bénîmes ainsi que Ishaq. Wa barakna alayhi wa ala Ishaq. Il a dit aussi, il m'a rendu béni. Wa ja'alani mubarakan. Donc Allah ta'ala, c'est lui seul qui bénit. En partant de cela, il n'est pas permis de dire de la créature qu'elle bénit, ou bien qu'une créature dise « Je bénis telle chose » ou « Je bénis votre acte » ou « Que ta venue soit bénie » car le mot « baraka » et le sens qu'il implique viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. En effet, le bien en quantité, sa persistance et sa constance proviennent de celui qui détient le commandement et c'est Allah seul. En outre, les textes dans le Coran et la Sunna indiquent que les éléments bénis par Allah subhanahu wa ta'ala sont tantôt des lieux ou des moments et tantôt des créatures humaines. Quand il s'agit de lieux ou de moments, Allah tabaraka wa ta'ala a béni des lieux comme la maison sacrée, comme les environs de la mosquée sainte de l'Quds ou d'autres lieux. Ceci signifie qu'Allah tabaraka wa ta'ala y a déposé du bien en quantité de manière persistante et perpétuelle, de façon à encourager et à stimuler ceux qui y sont conviés à y rester. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille se frotter avec la terre ou au mur de ces lieux. En effet, il s'agit d'une bénédiction qui est liée au lieu et qui ne se transmet pas. Cela signifie que si l'on en touche le sol, ou que l'on y enterre, ou que l'on recherche la bénédiction,
Cette dernière ne se transmet pas, car le sol est béni d'un point de vue spirituel, du point de vue de l'attachement du cœur à ce lieu, tel que la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, du point de vue de la quantité de biens dont hérite la personne qui souhaite y aller. Celle qui s'y rend effectue le tawaf autour d'elle, les circonvolutions, et y adore Allah subhanahu wa ta'ala. De même, la pierre noire, elle est bénie par Allah tabaraka wa ta'ala. Cette baraka, cette bénédiction est issue de l'adoration. Car celui qui la touche et l'embrasse par adoration envers Allah et par obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera touché par la baraka, par la bénédiction découlant de la conformité de ses actes à ceux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a été connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa la pierre et la toucha. Et c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il l'a fait, il a dit: je sais parfaitement que tu es une pierre qui ne peut être ni bénéfique ni même néfaste. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. C'est-à-dire que cette pierre ne transmet aucun bienfait et ne repousse aucun mal. En ce qui concerne les moments, c'est le fait que certains d'entre eux soient bénis, comme le mois de Ramadan, ou certains jours d'Allah tabaraka ta'ala qui comportent des mérites. Et cela signifie que quiconque adore Allah tabaraka ta'ala pendant ces jours et y recherche le bien, aura une récompense multipliée et supérieure à celle des autres jours. Donc ça, c'est en ce qui concerne les lieux et les moments. Deuxièmement, la baraka, la bénédiction relative aux êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une baraka, une bénédiction intrinsèque au prophète alayhi salat wa salam et aux messagers. C'est-à-dire que leurs corps sont bénis. Ainsi, si une personne appartenant au peuple de ce prophète recherche la bénédiction au travers du corps de ce dernier, que ce soit en passant les mains sur lui, en récupérant sa sueur, ou en cherchant la bénédiction de ses cheveux, ceci est permis. Car Allah subhanahu wa ta'ala a béni le corps des prophètes. En outre, le meilleur d'entre eux est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dont le corps aussi est béni. C'est pourquoi on trouve mentionné dans la sunna authentique que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recherchaient la bénédiction à travers sa sueur, à travers ses cheveux et beaucoup d'autres choses. Donc la bénédiction liée au prophète est intrinsèque à leur être. Et il est possible que l'effet de cette bénédiction, de ce mérite et de ce bien se transmette depuis leur corps vers autrui. Mais ceci est spécifique aux prophètes et aux messagers. En effet, aucune preuve affirmant qu'Allah aurait accordé aux compagnons des prophètes une bénédiction intrinsèque ne nous est parvenue. Ceci concerne même les meilleurs membres de cette communauté, à savoir Abu Bakr et Omar. Il nous est parvenu par un nombre de rapporteurs dissipant tout doute que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs successeurs, ne recherchaient pas la bénédiction au travers d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, comme il la recherchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses effets, de ses cheveux, de l'eau de ses ablutions, etc. Ainsi, la bénédiction de ses compagnons est une bénédiction dans les œuvres et non une bénédiction intrinsèque qui se transmet à l'instar de celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous dirons donc, chaque musulman possède une part de bénédiction qui n'est pas une bénédiction intrinsèque. Le musulman possède plutôt une bénédiction liée à ses actes, de par le fait qu'il s'est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa foi, de par sa crainte, de par sa vénération et de son respect qu'il voit à Allah tabaraka wa ta'ala, de par la conformité de ses actes à ceux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce type de bénédiction, la bénédiction dans la science, la bénédiction des actes ou de piété, ne se transmet pas. Et rechercher la bénédiction des gens pieux se fait donc en les prenant comme modèle de piété, et non pas en allant se frotter à eux ou chercher leurs effets, ce qui est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. De même que chercher la bénédiction des gens pieux, c'est en s'imprégnant de leur science, en tirant bénéfice de leurs connaissances, en tirant bénéfice de leur modèle quand ils suivent eux-mêmes les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il est donc interdit de chercher leur bénédiction en passant les mains sur leur corps ou par leur salive, car les meilleures créatures de cette communauté, à savoir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se sont jamais comportées de la sorte avec les meilleurs hommes de cette communauté, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman ou de Ali. Ceci est reconnu de façon incontestable. Incontestable. C'est pour cela aussi, dire d'une personne « Hada rajulun mubarak ». Cette personne est bénie. Cela revient à parler de certaines choses de l'invisible, de parler de certaines choses dont nous n'avons pas science. Donc, dire de quelqu'un « il est mubarak, il est béni » ou bien « hada rajulun salih », cette personne est un homme pieux, on est obligé de le conditionner en disant « Inch'Allah » ou bien de ce qui nous paraît, d'après ce qui nous paraît, d'après son apparence. C'est-à-dire qu'on laissera la réalité de sa situation à Allah, subhanahu wa ta'ala. En outre, la recherche de bénédiction, at-tabarruk, des polythéistes, consistait à espérer la réalisation du bien en quantité, de façon perpétuelle, constante et persistante, en se tournant vers leurs idoles, par différentes formes de recherche de bénédiction qui sont toutes du polythéisme. Et quand il dit dans le titre « et autres », c'est-à-dire les pierres, les arbres, les pierres et autres, c'est-à-dire toute autre chose similaire aux arbres et aux pierres, comme les différents lieux, ou une grotte en particulier, ou une tombe, ou une source d'eau, ou d'autres éléments auxquels les ignorants vouent une certaine croyance. D'ailleurs, il est important de comprendre la gravité de ce fait. Car en effet, rechercher la bénédiction d'un arbre, d'une pierre, d'une tombe ou de certains lieux peut être une forme de polythéisme majeur. Si la personne recherchant cette bénédiction croit que cet arbre, cette pierre, cette tombe contre laquelle il se frotte, sur laquelle il se vautre ou à laquelle il se colle, est un intermédiaire pour lui auprès d'Allah, ou un moyen lui permettant de s'approcher d'Allah, une adoration, un intercesseur. En effet, c'est prendre une divinité en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala, que d'agir de la sorte, et c'est une forme de polythéisme majeur. C'est d'ailleurs ce que croyaient les gens de la période anti-islamique au sujet des arbres et des pierres qu'ils adoraient, des tombes dont ils recherchaient la bénédiction. Ils croyaient que s'ils se recueillaient auprès d'elles, se frottaient contre elles, versaient du sable dessus, alors ce lieu, ou bien l'occupant de ce lieu, ou l'être spirituel s'occupant de ce lieu, c'est-à-dire l'esprit qui est au service de ce lieu, intercéderait en leur faveur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, Allah a dit, dans le sens des versets, « Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Donc, si les personnes pensent que cette chose ou cet objet ou cette personne peut donner la bénédiction en dehors d'Allah, que cette personne soit vivante ou morte, alors c'est du shirk akbar, c'est du polythéisme majeur. Si ces personnes se frottent ou cherchent la bénédiction par quelque moyen que ce soit sur ces choses, en les prenant comme intercesseurs entre eux et Allah, c'est du polythéisme majeur. De même, si une personne cherche la bénédiction à travers ces choses, en pensant que cela le rapproche d'Allah, il cherche à s'approcher d'Allah par ces moyens-là, par ces intercesseurs, par ces intermédiaires qu'il a pris entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala, alors c'est aussi du polythéisme majeur. C'est le même polythéisme 100% que le polythéisme que les mouchriquins de Quraysh vouaient à Lat, à l'Uzza, et aux pierres, et à Manat, etc., et aux arbres, à Zat al-Anwat, comme on va le voir plus tard. Parfois, il y a certains cas où ce tabarruk, cette recherche de bénédiction, peut être un cas de polythéisme mineur, qui est un grand péché, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est le cas, par exemple, où une personne prend un peu de sable d'une tombe, puis le verse sur son corps en croyant que ce sable est béni, et que c'est une cause de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais il ne cherche pas à ce que cette chose soit intercède auprès d'Allah pour lui. Et il ne croit pas qu'il y a une âme ou un esprit qui le protège ou qui lui donnera la bénédiction, ou bien qu'il sera intercesseur entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne fait pas cela pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il pense juste qu'Allah a mis la bénédiction dans cette chose, alors s'il la met sur lui, Allah lui donnera la guérison ou le bien. Alors ce cas-là est un cas de polythéisme mineur qui peut mener très facilement au polythéisme majeur, au polythéisme majeur. Et pourquoi ici on dit que c'est un polythéisme mineur? Car il n'a dirigé aucune adoration, ni son cœur, il ne l'a attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juste pensé qu'Allah a mis la bénédiction dans cette chose, il l'a utilisée pour gagner la bénédiction d'Allah ta'ala. Et non pas pour s'approcher d'Allah, non pas pour le prendre en intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni comme intermédiaire entre Allah et lui, ni en pensant que cette chose elle le bénit en dehors d'Allah, ni en pensant qu'il y a un esprit ici qui va le bénir, ou qui va intercéder ou être intermédiaire entre lui et Allah. Car dans tous ces autres cas, cela aurait été du polythéisme majeur. Puis, Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, a cité le verset dans Surat al-Najm, « Afara'aytum al-Lat wal-Uzza wa Manat al-Thalithat al-Ukhra » Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Al-Lat, c'était un rocher de couleur blanche se trouvant chez les gens de Ta'if, qui n'a été détruit qu'après la conversion de la tribu de Thaqif. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu pour détruire ce rocher et le casser. Un édifice avait été construit pour ce rocher qui avait des gardiens et des serviteurs. Al-Uzza, c'était un arbre qui se trouvait entre la Mecque et Ta'if. En effet, il s'agissait à l'origine d'un arbre. Mais un édifice a été ensuite construit autour de trois gommiers. Cet édifice avait des gardiens, mais aussi une femme devint au service de ce polythéisme. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque, il envoya Khalid ibn al-Walid pour couper ces trois gommiers et pour se débarrasser de cette sorcière, de cette femme devin, car les gens étaient autant attachés à l'arbre que à cette femme devin. Et il revenait à elle concernant le polythéisme. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, ainsi que Manat, cette troisième autre. Autre ici, c'est un moyen de dire qu'elle est vile et méprisable, cette autre-là. Manat, c'était aussi un rocher qu'on appelait ainsi en raison de la grande quantité de sang d'animal sacrifié versé par vénération pour ou sur ce rocher. Pour et sur ce rocher. Ce verset a été cité dans ce chapitre car Al-Lat et Al-Manat étaient deux rochers, des pierres. Et Al-Uzza, c'était un arbre. Or, les actes commis par les polythéistes auprès de ces trois choses sont exactement ce que font les polythéistes à notre époque auprès des rochers, des arbres et des grottes. Et plus grave encore est le fait de prendre les tombes comme divinités vers lesquelles ils s'orientent et auprès desquelles ils accomplissent des actes d'adoration. Puis le cheikh a cité un hadith dans ce chapitre. D'après Abu Waqid al-Laythi, radiallahu anhu, il a dit, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un jujubier aux branches duquel ils suspendaient leurs armes. Ils surnommaient cet arbre Zatu Anwata. Apercevant un jujubier, nous dîmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre Zat Anwat semblable au leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama alors, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ce sont les histoires d'avant qui se répètent, qui reviennent par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa quand ils ont dit « Ij'al lana ilahan kama lahum aliha »« Qala innakum qawmun tajhalun » Quand ils ont dit « Désigne-nous une divinité divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Tirmidhi, ce hadith a été authentifié. Ce hadith de Abu Waqidin al-Laythi, radiallahu anhu, a beaucoup de leçons. Et il est d'une grande importance. Comme on voit dans ce hadith, les polythéistes avaient un jujubié au sujet duquel ils avaient une certaine croyance. Cette croyance englobait trois choses. Premièrement, il vénérait cet arbre. Deuxièmement, il se recueillait auprès de lui. Le fait de rester à un endroit dans un but de vénération et de dévouement. Al-Ukuf. Troisièmement, ils y suspendaient leurs armes en espérant que la bénédiction se transmettrait de l'arbre vers leurs armes, afin qu'elles soient plus tranchantes et que le bien soit plus conséquent pour leurs propriétaires. Or, cet acte est une forme de polythéisme majeur pour les trois raisons précitées. Les nouveaux convertis parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent « ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre ذات أنواط semblable au leur », pensant que cela ne faisait pas partie du polythéisme et croyant que l'adhésion à la formule du tawhid, la ilaha illallah, ne serait pas rendue caduque par cet acte. C'est pourquoi les savants ont dit que certains détails du polythéisme peuvent échapper même à des personnes respectables, car certaines catégories du tawhid d'adoration ont échappé aux compagnons convertis après la conquête de la Mecque, bien qu'ils soient les plus versés dans la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Ce sont les mêmes traditions d'avant qui se répètent. Par celui qui tient mon âme dans sa main ou dans ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé de façon judicieuse la demande des compagnons, désigne-nous un arbre, ذات أنواط, à celle du peuple de Moussa, qui ont dit, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité, à leur Dieu. Bien que les compagnons n'ont pas accompli l'acte qu'ils avaient demandé, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le leur eut interdit, ils le délaissèrent. Or, s'ils avaient accompli leur demande, ça aurait été une forme de polythéisme majeur. Mais comme ils se sont contentés de parler et de demander sans accomplir l'acte, leurs propos furent considérés comme une forme de polythéisme mineur en raison de ce que cela comporte comme attachement à autre qu'Allah. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de renouveler leur islam. On peut donc en déduire de manière explicite que le polythéisme majeur commis par les polythéistes n'était pas uniquement lié à leur recherche de bénédiction auprès de cet arbre, de ce jujubié, ذات أنواط, mais aussi à la vénération qu'ils lui vouaient, au recueillement au pied de cet arbre et à la recherche de bénédiction en y suspendant leurs armes. Donc à cause de ces trois causes, ensemble, nous avons déjà cité que le fait de chercher la bénédiction par les arbres, les rochers et autres, s'il est accompagné de la croyance au fait que cet objet rapproche d'Allah et permet à la demande de l'atteindre ou d'avoir plus de chances d'être accepté ou de faire en sorte que le bien s'accroisse pour la personne qui recherche la bénédiction en cet endroit, alors c'est une forme de polythéisme majeur qui était pratiquée par les gens de la période anté-islamique. Et si l'on médite sur les agissements des adorateurs de tombes et des fabulateurs de nos jours, on se rendra compte de manière évidente que leurs actes sont identiques à ceux commis par les premiers polythéistes auprès de Lat, Al-Uzza et ذات أنواط. En effet, ces adorateurs de tombes éprouvent une croyance envers la tombe, voire même envers la grille métallique qui entoure la tombe. C'est ainsi que dans les pays où le polythéisme est répandu, ou bien il est manifeste, dans les différents lieux où l'on visite les tombes, on voit des gens qui éprouvent une croyance envers le mur ou la grille métallique entourant la tombe. lorsqu'ils frottent leur corps contre ces constructions, ils considèrent s'être frottés contre l'occupant de la tombe dont l'âme communique avec eux. Ils croient alors que celle-ci intercédera en leur faveur en raison de la vénération qu'ils lui ont vouée. Ceci est une forme de polythéisme majeur, car correspond à l'attachement du cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour susciter un bienfait ou repousser un mal, tout en considérant cet autre comme un intermédiaire entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est similaire aux actes des premiers polythéistes au sujet desquels Allah ta'ala a dit dans le sens des versets « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Quant au second type de tabarruk, de recherche de bénédiction, que nous avons cité précédemment, il consiste à croire que se frotter contre quelque chose de particulier peut être une cause de bienfait, comme le font certaines personnes ignorantes dans la mosquée sacrée qui se frottent aux portes extérieures de la mosquée, à certains murs ou aux piliers. Mais si ces personnes croient qu'il y a une âme dans ce pilier, ou qu'une personne est enterrée non loin de ce lieu, ou que, comme ils le disent, certains bons esprits sont au service de ce pilier, et que ces personnes s'y frottent afin d'atteindre Allah, de se rapprocher d'Allah, alors c'est une forme de polythéisme majeur. En revanche, si elle se frotte en croyant que ce lieu est béni et qu'il peut être la cause de guérison, alors c'est une forme de polythéisme mineur. En conclusion, se frotter à une chose en particulier, en la considérant comme une cause, est une forme de polythéisme mineur. Par contre, si le cœur s'attache à l'objet contre lequel on se frotte, ou dont on recherche la bénédiction, en le vénérant, en se recueillant auprès de lui, en croyant la présence d'une âme à cet endroit, ou que celle-ci pourra intercéder en sa faveur auprès d'Allah, alors c'est une forme de polythéisme majeur. J'espère que la différence entre les deux pour vous a été claire. Nous allons citer maintenant pour finir les points que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cités, les points à retenir. 1. L'explication du verset de la Sourate An-Najm, l'étoile. 2. Connaître le type de demande qu'ils ont émis. 3. Les compagnons ne sont pas passés à l'acte. 4. Par leur demande, les compagnons cherchaient à se rapprocher d'Allah en pensant qu'il s'agissait d'une chose qu'ils aimaient, subhanahu wa ta'ala. 5. Si les compagnons n'étaient pas au courant de la gravité de cet acte, alors d'autres qu'eux sont plus à même de l'ignorer à leur tour. 6. Les compagnons ont de bonnes actions et une promesse de pardon que d'autres n'ont pas. 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé de circonstances atténuantes pour les compagnons. Bien au contraire, il leur a répondu « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». L'histoire se répète. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, soulignant la gravité de l'acte par ces trois expressions. 8. Le point le plus important qui est visé, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons de la similarité de leur demande à celle des enfants d'Israël lorsqu'ils dirent à Moussa « Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu ». 9. La négation de cet acte, bien qu'elle ne leur soit pas apparue clairement et précisément, fait partie intégrante du sens de la parole « La ilaha illallah ». 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré avant de donner son jugement, alors il ne jure que pour une raison sage. 11. Le polythéisme se décompose en polythéisme majeur et mineur. En effet, les compagnons ne sont pas sortis de l'islam à cause de leur acte. 12. L'expression suivante, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, indique que les autres compagnons étaient, eux, informés de la gravité de cet acte. 13. Il est recommandé de dire Allahu Akbar lorsque l'on s'exclame, contrairement à l'avis de ceux qui considèrent cela détestable. 14. Barrer et entraver les voies qui mènent au polythéisme. 15. L'interdiction d'imiter les gens de la période anti-islamique. 16. La colère lors de l'enseignement. Ici, Cheikh Al-Uthaymeen dit, on ne voit pas clairement où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère lors de l'enseignement. Mais en vérité, c'est quand il a dit « Allahu Akbar, innaha sunan ». On peut voir à travers les expressions qu'il a utilisées qu'il était en colère. Donc parfois, il est légal de montrer sa colère lors de l'enseignement. 17. La règle générale issue de sa parole, l'histoire se répète. C'est-à-dire, les habitudes et la voix des gens anciens est répétée par les gens nouveaux. 18. Cette dernière phrase est un des signes de la prophétie, car cela est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Effectivement, la communauté suit les pas des juifs et des chrétiens et des peuples égarés, pas à pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. 19. Tout ce pourquoi Allah a blâmé les juifs et les chrétiens nous concerne aussi. Ce n'est pas propre à eux. Si nous aussi on fait les mêmes erreurs et les mêmes égarements qu'eux, nous sommes concernés par ces mises en garde et par ces paroles. 20. Il est convenu pour les compagnons que les actes d'adoration ne sont légitimes qu'après ordre d'Allah ou de son messager. On trouve donc dans ce hadith le rappel des trois questions posées dans la tombe. Ainsi, la question « Qui est ton Seigneur ?» est aisément déductible du texte. Quant à la question « Qui est ton prophète ?», on la déduit du fait que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe au sujet des choses imperceptibles ou invisibles. Enfin, pour ce qui est de la question « Quelle est ta religion ?», on la déduit de la demande des enfants d'Israël. Désigne-nous une divinité. 21. La voix des gens du livre est blâmée comme la voix des polythéistes. 22. Celui qui délaisse le faux auquel son cœur s'est habitué n'est pas à l'abri de ce qui peut rester de cette mauvaise habitude. Allahu Akbar. Et ce que l'on déduit des propos des compagnons alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam. Ça, ce point est très important pour nous qui habitons en France, surtout pour les gens qui ont fait un repentir récent ou pour les reconvertis. Même s'il a délaissé ce faux dans lequel il était, cela ne veut pas dire qu'il est complètement purifié de cela. Il peut rester certaines traces, certaines mauvaises habitudes, certaines mauvaises croyances dans son cœur. C'est pour cela qu'il est nécessaire de continuer l'enseignement du tawhid et de nettoyer de toute mauvaise croyance et mauvaise pratique et mauvaises habitudes qu'on avait avant l'islam. Malheureusement, beaucoup de gens sont entrés en islam et n'ont pas fait l'effort, cet effort de purification, de nettoyage, pour pouvoir apprendre la croyance correcte et les bonnes mœurs et la bonne voie à suivre. Alors on les voit, ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'ils sont musulmans ou dans la sunna, mais ils ont gardé certaines habitudes ou parfois même certaines croyances de l'époque anti-islamique. Et cela ressort dans les moments de difficulté ou dans certaines situations. Qu'Allah Ta'ala nous guide et nous pardonne. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.